Je souhaite vous lire un passage de la Bible. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.
C'est avec joie que je retrouve l'Église. Je n'étais pas parti, rassurez-vous, mais je n'étais plus au même endroit. J'étais vers les régions un peu plus chaudes et j'ai passé donc à peu près 4 mois. Et donc, on allait dans des églises plus proches, forcément, en particulier à Montpellier ou à Anduze. Et j'ai du plaisir à revenir, même si je n'ai pas pu vous ramener le temps, je n'ai pas pu amener le soleil avec moi. Mais je suis sûr que c'est un jour agréable, un jour de joie, cette journée de sabbat que nous passons ensemble. Et pour chacun de nous, que nous soyons membres de cette Église ou que nous soyons visiteurs, que Dieu nous bénisse tous. Un jeune Esquimau de la toundra va chez des amis en ville, des amis de la famille. Il va passer quelques jours de vacances et il prend avec lui quelques affaires, bien entendu. Et lorsqu'il se retrouve en ville, il lui prend un matin l'envie d'aller pêcher. Il se dit, tiens, je pourrais attraper peut-être quelques poissons pour la famille. Et il prend sa ligne, il prend ses appâts, il prend son piolet, son pic pour creuser la glace. Et il sort dans la rue. Et effectivement, il a un peu de mal à trouver le bon endroit pour faire sa pêche. Mais il repère quelque chose qui lui semble approprié. Et donc, il se met là, il se baisse et il va creuser la glace lorsqu'il entend dans le haut-parleur, un haut-parleur voisin, quelqu'un qui lui dit « Il ne faut pas creuser ici, il n'y a pas de poisson. » Il se dit « Tiens, il est tellement surpris qu'il se relève, il prend ses affaires et il va un petit peu plus loin, il s'éloigne, il se dit « Bon, je suis assez loin. » Il se baisse de nouveau pour essayer de creuser et de nouveau la voix dans le haut-parleur lui dit « Il ne faut pas creuser ici, il n'y a pas de poisson. » Alors là, ce coup-là, il se relève, il dit « Mais qui c'est qui me parle ?» Et il entend dans le haut-parleur quelqu'un qui lui dit « Ici, c'est le directeur de la patinoire municipale. » Et oui, même les Esquimaux peuvent se faire avoir. Quand on vient de la toundra et qu'on va en ville, c'est pas la même chose. Et donc, cette histoire, bien sûr, fait sourire, elle est faite pour ça, mais je crois qu'on peut, on peut lui trouver un intérêt spirituel aussi. C'est-à-dire que on aimerait bien parfois que quand on va faire quelque chose qui ne sert à rien, comme creuser dans un endroit où il n'y a pas de lac en dessous, quelqu'un puisse nous dire « Bon, arrête, c'est pas la peine de perdre ton temps, ça va mener à rien, tu pourras pas aboutir et tu vas perdre ton temps et éventuellement ton argent, ton énergie. » On aimerait bien que ce soit comme ça, que ça fonctionne. Et c'est vrai que par moments, ça fonctionne comme ça. On a des amis, on a des parents, on a de la famille, on a des collègues de travail, on a des membres d'église, un pasteur, un ancien, qui dit « Ah ben non, ce que tu fais là, je vais te dire, tu vas droit à l'échec. Ça se voit. » Par exemple, le métier pour lequel tu penses te former va te conduire directement au pôle emploi. Alors on se dit « Mince, ça fait réfléchir. » Et si on y croit, si on prête intérêt à ce qu'on nous dit, on se dit « Tiens, ben, il faut que je fasse autre chose, effectivement, c'est peut-être un bon conseil. » Bon, malheureusement, les conseils humains ne sont pas toujours de bons conseils parce que l'homme n'a pas la possibilité de savoir ce qui va se passer par la suite. Il peut déduire certains éléments de la situation présente, mais il a du mal à faire des prophéties, entre guillemets, sur ce qui va arriver. Et je ne sais pas si vous avez été à Paris souvent, mais comme j'y ai travaillé pendant 30 ans, j'ai vu souvent des touristes qui demandaient leur chemin et qu'on guidait dans des endroits pas possibles, quand j'écoutais ce qu'on leur disait comme conseil pour atteindre le point qu'ils voulaient atteindre, je me disais, ils y arriveront jamais. C'est pour dire qu'on peut, avec toute la bonne volonté, donner de mauvais conseils. Ce qui serait plus judicieux, bien entendu, c'est que ce haut-parleur soit le haut-parleur de la voix de Dieu dans notre conscience. Et ça existe aussi. Ça existe aussi. Dieu communique, veut communiquer avec nous. Mais seulement, nous sommes dans des situations, et il y a énormément de raisons qui font que on n'entend pas ce haut-parleur, ou on n'est pas branché sur la même longueur d'onde, on n'est pas attentif à ce qui se passe, et on est coupé de cette voix qui pourrait être beaucoup plus sûre en matière de conseil, en matière de guide, en matière d'information. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on peut être coupé de cette voix de Dieu, qu'on peut avoir l'impression que Dieu ne communique pas, qu'il est silencieux, qu'il est muet, qu'il laisse les choses se passer et que ça ne répond pas. On n'entend rien, on ne voit rien. Et je vais prendre simplement deux raisons qui font que parfois on a l'impression que ça ne marche pas. Il n'y a rien qui sort du haut-parleur. La première, je voudrais que vous lisiez avec moi un récit qui se trouve dans Marc, au chapitre 4, à partir du verset 35. C'est un récit de traversée du lac de Tibériade, cette mer de Galilée, sur les bords de laquelle Jésus a souvent prêché. Donc, Marc, au chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Le soir de ce même jour, il leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent comme il était dans le bateau, et il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque, les vagues se jettent dans le bateau. Déjà, il se remplit. Lui dort à la poupe sur le coussin. Alors ils le réveillèrent, ils lui dirent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci à qui même le vent et la mer lui obéissent ?» Donc on a là un des textes de ces traversées de ce lac, et on s'aperçoit que les disciples vont prendre les choses en main. Hein. On nous dit ils l'emmenèrent tel qu'il était dans la barque pour le faire traverser la mer de Galilée, aller un petit peu à l'écart pour se reposer, et on voit qu'ils prennent ça en charge et Jésus, qui est exténué, on le voit, dès qu'il est monté dans la barque, il va se mettre à l'arrière et il va s'endormir. S'endormir profondément. Il va s'endormir à tel point que la tempête, la bourrasque, rien ne le réveille. Et les disciples vont être à la manœuvre, ils vont faire le mieux qu'ils savent, le mieux qu'ils peuvent, mais à un moment donné, ils se rendent compte que c'est pas possible, ils sont sur le point de chavirer. Et alors ils vont réveiller le maître, ils vont lui dire, et là ils vont lui faire, vous remarquez, ils vont lui faire des reproches. Ils auraient pu le réveiller avant, ils auraient pu lui dire ça va mal, oh là là, on croyait être compétent, mais on ne l'est peut-être pas assez parce que là on voit bien que ça va aller très mal. Non, ils le laissent dormir et à un moment donné ils le secouent, ils lui disent, mais ça ne te fait rien que nous périssions ? Et on a là une attitude qui est souvent celle que nous adoptons, c'est-à-dire que nous prenons les choses en main. Oh ben, Jésus, il est bon pour le spirituel. C'est un bon prédicateur, il guérit les malades, il fait des miracles. Ça, c'est son domaine. Quand je parle à Dieu, quand je m'adresse à lui, c'est pour des choses spirituelles. Mais ce qui est le matériel, ce qui est ma profession, mon savoir-faire... Moi, je suis pêcheur, je suis marin, je connais la mer, je connais les bateaux, je sais piloter mon bateau. Et donc, je ne vais pas demander à Jésus qui n'y connaît rien. Lui, il sait faire des roues de charrette éventuellement, mais il ne sait pas piloter les bateaux. Donc, je ne vais pas lui demander de venir à mon secours c'est à moi de me débrouiller. Et on fait des compartiments comme ça dans la vie. Certaines choses, on pense que Dieu peut agir, et dans certaines autres, ben, on se dit, ben, ça, c'est à moi de faire. De faire tout seul, en quelque sorte, j'ai pas besoin de conseils, c'est moi le professionnel dans ce domaine-là. Et ce qui arrive souvent, c'est que quand ça va très mal, on reproche à Dieu de n'avoir rien fait. On dit mais tu ne nous aimes plus alors, tu ne fais plus rien, tu nous laisses périr. Et c'est une des raisons qui fait que on n'entend pas la voix de Dieu, parce qu'on lui demande rien. On ne lui demande rien. On pense que dans certains domaines, c'est à nous d'agir, c'est à nous de nous débrouiller avec notre intelligence et de faire ce qu'il y a à faire. On ne place pas Dieu au centre de notre vie. On dit, bon, sur le domaine de la foi, de la croyance, de l'espérance, tout ça va bien, on va prier Dieu, on va attendre qu'il nous révèle sa volonté, mais dans les autres domaines, on va faire ça nous-mêmes. Et c'est vrai que beaucoup de ménages qui ont fini par se rompre, c'est vrai que beaucoup de carrières qui ont mal fini, dans la désolation, auraient pu peut-être bénéficier des conseils de Dieu, auraient pu peut-être être différemment. Ça ne veut pas dire que toutes les situations, on ne va jamais aller vers des catastrophes, hein. Ce n'est pas ce que je dis, mais ça veut dire que si on part du principe que Dieu n'a pas son mot à dire dans une partie de notre vie, dans certains de nos choix, certaines décisions, c'est clair qu'on ne pourra rien lui reprocher quand ça ira mal, et que la voix dans le haut-parleur, elle restera muette. Elle restera muette. Donc ça, c'est une des raisons. D'ailleurs, c'est pourquoi on nous a lu ce texte de Philippiens où Paul dit « en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Et il répondra « en toute chose. » Ne faisons pas de domaine dans lequel Dieu est exclu, Dieu n'a pas son mot à dire. Dieu est maître de notre vie et il veut conduire cette vie, il veut nous inspirer pour que nous évitions autant que possible les mauvaises décisions. L'autre texte que j'aimerais que nous lisions ensemble, c'est un texte qui raconte aussi une traversée un petit peu mouvementée du lac de Tibériade, et c'est au chapitre 14 de Matthieu. Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 22. Là, c'est une autre de ces traversées. Jésus vient de multiplier les pains et les poissons. La foule est prête à le faire roi, en quelque sorte. Elle y voit un grand intérêt à ce que cet homme qui parle comme personne n'a jamais parlé, et qui en plus vous donne à manger gratuitement, elle le voit bien comme étant leur propre chef, le chef de ce pays, du pays dans lequel ils habitent. Et là, on voit que Jésus a un peu de mal avec les disciples, parce que les disciples sont très favorables à l'idée que Jésus puisse prendre le pouvoir. Et Jésus est obligé, et va être obligé de les forcer à rentrer, à monter dans une barque et à s'éloigner, à passer sur l'autre rive. C'est la fin de la journée. Le texte nous dit ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui dit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, » dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était très fort, il eut peur et, comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment fils de Dieu ». Voilà une autre expérience qui est du même genre que la première, légèrement différente, puisque là, Jésus va forcer les disciples à partir devant, et lui, il leur dit « Je vous rejoindrai ». Effectivement, il y avait beaucoup de barques, en général, d'autres textes le signalent, et donc les disciples ont pensé que quelqu'un le prendrait dans sa barque et le ramènerait un peu plus tard. Et ils vont partir. C'est probablement la fin de la journée, hein, vers 5-6 heures de l'après-midi, et ils vont essayer de traverser ce lac. Mais on nous dit que Jésus va les rejoindre à la quatrième veille de la nuit. Alors la quatrième veille de la nuit, c'est entre 3 heures et 6 heures du matin. Ça veut dire qu'une traversée qui, d'habitude, prend 2 heures à peu près, hein, il y a une douzaine de kilomètres dans la partie la plus large du lac. Une barque, ça avance à 6 km heure, 7 km heure, si on a de gros biceps, peut-être à 8 km heure, si on sait ramer avec force. Donc, disons, 2 heures au plus. Ils sont partis vers 5-6 heures de l'après-midi, il est entre 3 heures et 6 heures du matin, ils ne sont toujours pas arrivés de l'autre côté. On nous dit qu'il y a la bourrasque, probablement des courants qui les font dériver, et ils sont obligés de lutter contre le courant pour essayer d'atteindre le cap sur l'autre rive. Donc, c'est une situation périlleuse. C'est une situation périlleuse parce qu'eux ont aussi passé la journée à prêcher, à s'occuper des gens, à les amener vers Jésus, à les canaliser. Donc, ils sont fatigués aussi de cette journée de travail. Et là, Jésus va apparaître. C'est vrai qu'il y a la bourrasque, c'est vrai qu'il y a peut-être de la brume, c'est vrai qu'il y a du vent. Et ils le discernent mal. Et leur première réaction, c'est de croire que tout est fini, puisque les morts se relèvent et viennent nous chercher pour nous emmener dans le séjour des morts. Alors ça, c'est le comble. C'est le comble. On voit tout de suite qu'on va mourir, les fantômes sont là, ils vont nous emmener avec eux. Et c'est la terreur dans la barque. Et Jésus doit leur dire, mais ayez confiance, c'est moi, ne craignez rien. Vous ne me reconnaissez pas? Et si, c'est peut-être difficile un petit peu de le reconnaître. Le seul qui réagit positivement, c'est toujours le même, c'est Pierre qui dit « Ah ben si c'est toi, ben, ordonne que je vienne à ta rencontre. » Et Jésus lui dit « Viens. » Et Pierre va faire une expérience qui va rester, je suppose, dans sa mémoire. Ça va être une histoire qu'il va raconter à tout le monde, à ses petits-enfants. « Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé une fois ?» Ben, je suis sorti d'une barque, j'ai mis le pied dans l'eau et l'eau était dure. Ah, il n'avait pas gelé hein, la veille, mais l'eau était dure et j'ai marché sur l'eau. Incroyable, incroyable. Il va prendre le risque de sortir. Pourquoi le risque? Parce que tout le monde sait que quand on met le pied dans l'eau, on s'enfonce. Hein, Archimède l'a mesuré. Il a mesuré de combien on pouvait s'enfoncer. Hein, par rapport à la densité du corps et à la surface de l'eau qu'on déplaçait. Donc, tout le monde le sait, c'est un élément scientifique, je dirais, et sa raison aussi le sait. Il doit lutter contre ce qu'il sait. On ne peut pas marcher sur l'eau. Et il va quand même enjamber, prendre le risque d'enjamber et de se rendre compte que l'eau est dure, que la mer résiste, que les vents, la bourrasque ne l'empêchent pas d'avancer. Et on a là une leçon merveilleuse, c'est-à-dire que si on reste dans la barque et qu'on ne prend pas de risques, on ne saura jamais qu'on peut marcher sur l'eau. On ne saura jamais qu'on peut faire des choses extraordinaires qu'on ne savait pas être capable de faire. Si on reste douillettement dans sa communauté, si on reste entre soi, c'est clair qu'on ne... On n'aura pas besoin de cette voix dans le haut-parleur, puisque tout va bien, les choses se passent tranquillement, on n'a pas besoin de faire preuve d'une foi extraordinaire, on vient là, bon, Dieu nous bénit, on peut voir ces choses-là dans notre vie, et tout va gentiment, tout ça avance vers la retraite, et ce qui vient après. Et donc, on peut être comme ça, on peut être comme ça tranquillement et se dire, bon, ben, moi je prends de risques, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y en a qui disent, vivons couchés, hein, ce qui est encore une autre façon de voir les choses. Et donc, voilà, je ne prends pas de risque, je ne m'avance pas. Et donc, pourquoi Dieu aurait-il à me donner des conseils, aurait-il à faire entendre sa voix dans ma conscience si j'arrive à me débrouiller tout seul ? Et c'est là une donnée de base, c'est-à-dire que si je ne prends pas de risque, et le risque, c'est quoi ? Bien sûr, ce n'est pas le risque qui consiste à tenter Dieu. Vous savez, le diable avait mis, vous lisez dans Matthieu 4, la tentation de Jésus, le diable, une des tentations, c'était de mettre Jésus sur le sommet du temple et de lui dire, jette-toi, vas-y, jette-toi en bas, il est écrit que ses anges te porteront pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Mais ça n'avait aucun sens, je veux dire, c'est provoquer Dieu, essayer de manipuler Dieu pour le forcer à agir dans une situation qui n'a rien d'obligatoire, qui n'ajoute rien à la foi, c'est simplement faire une démonstration publique, c'est simplement faire un acte public qui n'a aucun sens. Et Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Là, on n'est pas dans la tentation, dans le risque dont nous parlons, ce n'est pas la tentation, c'est l'autre type de risque qui consiste à faire confiance à Dieu. Si Jésus a dit, viens me rejoindre, alors je peux marcher sur l'eau. Mais encore faut-il que ma raison me laisse faire. Encore faut-il que ma peur me laisse faire. Il faut quand même que j'enjambe la barque. Il faut quand même que je mette mon pied de l'autre côté et que j'appuie. Et donc c'est là que la difficulté se fait, mais c'est là aussi que la beauté de cette relation avec Dieu apparaît. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu se manifester dans la vie lorsque, effectivement, je fais des choses que je crois impossibles à faire, que ma raison me dit qu'ils sont infaisables. C'est ce dont, pour prendre un exemple pratique, c'est ce dont parlait Malachi. Vous vous rappelez au chapitre 3, Malachi au chapitre 3, au verset 10. Là, il y avait un problème, les gens étaient revenus de la captivité, tout était en ruine, et ils se disaient, ben non, on n'a pas les moyens de donner des offrandes, on n'a pas les moyens de verser notre dîme, on est déjà dans une situation tellement difficile, tout le pays est en ruine, nos maisons sont en ruine, il faut quand même qu'on commence à se loger, à essayer de pourvoir aux besoins de notre vie. Et là, Malachi va dire au chapitre 3, au verset 10, « Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison, mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie. » dit le Seigneur des armées, « J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » C'est la même chose que de mettre le pied dans la mer et de penser que je vais pouvoir avancer sur l'eau. Lorsque je me dis que mes frais fixes et tout ce que je gagne ne vont à peine suffire à couvrir mes besoins de base, c'est sûr que ma raison me dit « je ne peux rien donner ». Je ne peux pas donner, je ne peux pas être généreux à partir de ce moment-là. Et pourtant, Dieu dit, voyez si, essayez, testez, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne vous bénis pas. Mais il faut y croire, il faut avoir confiance, il faut prendre le risque de donner. Ça me rappelle une petite histoire d'un missionnaire qui avait appris aux personnes qui venaient dans son petit groupe qu'il avait constitué, il leur avait appris à donner la dîme, il leur avait parlé de la dîme, etc., il leur avait expliqué ce que c'était, et quelques jours après, ces gens qui étaient des pêcheurs, qui étaient habités aussi au bord d'un lac, ils voient un de ses paroissiens venir avec un poisson, on lui dit « Voilà, pasteur, j'ai compris ce que c'était la dîme, et je vous porte un poisson ». Et le pasteur lui dit, ah ben très bien, merci, c'est gentil, mais il dit, mais je ne vois pas les 9 autres poissons pour toi. Et alors il a un large sourire, il dit, non, ils sont encore dans la rivière, je vais aller les pêcher. Et c'est bien ça la foi, c'est bien ça prendre un risque. Il va commencer par donner la dîme et puis après il s'occupera de chercher sa part dans la rivière parce qu'il est sûr que la bénédiction de Dieu est là, et que ces poissons, il les sortira de l'eau. Et c'est ça qui fait que On peut avoir l'impression que Dieu ne parle pas, que Dieu est lointain et distant, parce que je ne me mets pas dans situation de lui faire confiance, d'aller au-delà de ma peur, d'aller au-delà de ma raison. Et c'est une invitation ce matin, alors que nous commençons une année ecclésiale, d'essayer de vivre de cette manière-là, essayer de non pas d'avoir une foi qui consiste à rester tranquillement dans ses habitudes, rester dans ce qu'on a compris, de rester dans des choses qui sont raisonnables, mais avoir une foi qui fait vraiment confiance à Dieu, qui dit « puisque tu as dit viens, je vais sortir de la barque ». Maintenant, c'est ta responsabilité, si je me noie, c'est ta responsabilité. Tu m'as dit « viens, je viens ». Tu m'as dit de donner la dîme, je vais la donner. Et tous ceux qui ont fait l'expérience, et j'en ai entendu des expériences de gens qui ont donné la dîme alors qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, objectivement, et ces personnes-là ne se sont jamais plaintes d'avoir manqué, d'avoir été abandonnées par Dieu. Et je crois que c'est une expérience qu'il faut faire tant qu'on ne va pas à travers ces expériences-là, que ce soit pour la dîme, que ce soit pour la violence, l'orgueil, la médisance, des personnes qui ont désiré changer, désiré aller au-delà de ce qu'ils croyaient pouvoir faire, ces personnes ont toujours dit que Dieu les avait transformées. Dieu avait fait des miracles dans leur vie. Et alors là, cette voix de Dieu dans le haut-parleur, ils l'ont entendue, ils l'entendent encore parce que ils ont développé une relation avec Dieu qui est une relation forte, une relation qui est différente simplement d'une simple pratique, d'un simple respect de règles. C'est une relation personnelle, une relation individuelle qui sait que Dieu est là et Dieu répond. Je disais, c'est le début de l'année ecclésiale et je pense que ce serait une bonne décision à prendre de rentrer dans ce mode de fonctionnement-là, d'essayer de goûter, puisque le terme est employé dans la parole, goûter l'amour de Dieu, le goûter de tout son être, savoir qu'il est capable de faire des choses merveilleuses. À ce moment-là, nous entendrons certainement cette voix dans le haut-parleur beaucoup plus souvent, et elle nous évitera pas mal de difficultés. Et nous pourrons vivre avec cette assurance, vivre avec cette espérance jusqu'au jour où nous verrons, nous n'aurons plus besoin de haut-parleurs, nous verrons Dieu face à face. Amen.